Bienvenue dans la saline de Saint-Hilaire-de-Riez, autrement appelée la saline de la basse vallée de la vie. Moi, j'aime l'appeler la discrète. Cet espace fait de bassins en eau salée représente 250 hectares environ. Elle se compose de chemins appelés charreaux. Ce sont des chemins de la largeur d'une charrette qui sont carrossés. De bossis qui séparent les bassins, souvent avec de l'herbe, et les bassins eux-mêmes qui servent à produire du sel. Les bassins de production sont quant à eux faits de séparation d'argile permettant à l'eau de circuler afin de produire du sel dans les carrés au centre, les œillets. Chaque œillet peut récolter 500 kg de gros sel en moyenne par an. Sur cette exploitation, nous possédons deux marais salants de 28 œillets. On peut donc produire 30 tonnes de gros sel en moyenne chaque année. Le gros sel ne se perd pas, alors on stocke les bonnes années qui desservent les petites années. Cette saline a bien réduite aujourd'hui. En effet, à son apogée vers le XIIe siècle, elle a atteint jusqu'à 1500 hectares. Imaginez 400 familles de sauniers travaillant alors le sel appelé l'or blanc. Le sel était d'une importance capitale pour conserver nos aliments. De Guérande jusqu'à l'île de Ré, cette côte ouest était appelée le grenier à sel de l'Europe. Certes, le sel était utilisé dans tous les saloirs de France, mais aussi était distribué jusqu'en Europe du Nord. En exemple, la Hollande, le Royaume-Uni, tous ces peuples ne pouvaient produire de sel, dû à la météo bien sûr, mais en utilisaient énormément. Imaginez ces navires qui arrivaient chez nous chargés de cailloux. Et oui, si vous fabriquez un bateau capable de transporter 30 tonnes de marchandises, celui-ci ne flottera pas à vide, dû à la poussée d'Archimède bien sûr. Alors ces cailloux, eh bien c'était des lestes. En arrivant chez nous, ils étaient déchargés et abandonnés. On chargeait le sel, puis on repartait. La pêche allait se faire sur la route du retour, bien sûr. Et nous, pendant ce temps-là, nous allions construire les ports, les quais avec ces cailloux. Ce sel sortait donc de nos salines à dos d'âne. Au mois de septembre, on le roulait, puis dans les charrettes avec le temps. Celui-ci était stocké dans les salorges, les bâtiments à sel, en bois, recouverts de tuiles, avec ces fameux bords en pente. Le négoce de celui-ci était tenu par le royaume, puis après la Révolution, par l'État. En aucun cas, cette matière appartenait aux sauniers. Ceci est également vrai pour les marais salants. Ce sont les riches familles nantaises qui détenaient ces terres. Détenir un marais salant à l'époque, ça équivaut, j'imagine, à détenir un puits de pétrole aujourd'hui. On peut aisément imaginer que les allées et venues alors étaient contrôlées sur ces chemins, sur ces charreaux. Les gabelous, les douaniers de la gabelle, fouillaient donc les sauniers à chaque sortie de notre saline lorsqu'ils rentraient le soir à la ferme. Cet impôt sera terrible. Il débute au XIIIe siècle, s'arrête tout d'abord en 1790, après la Révolution, mais il est restauré en 1806. C'est seulement en 1944 que Charles de Gaulle, à son retour d'Angleterre, retire totalement le mot gabelle de nos textes. Il y avait plusieurs régions de gabelle. Région de Petite Gabelle où l'on payait le sel très cher, mais on n'achetait que selon ses besoins. Région de Haute Gabelle, le sel était tout aussi cher, mais vous aviez obligation d'en acheter une quantité minimum pour chaque famille. Quant à la région de Bretagne et de Vendée, elle était exempte de cet impôt. Alors bien sûr, les prix étaient tellement différents entre ces régions que va s'installer la contrebande. Les faux-sauniers, les contrebandiers du sel, passaient par-delà des gabelous afin de vendre au marché noir. Ils risquaient gros. Cette contrebande, elle était punie par le fouet, les galères, la prison ou si vous étiez armé, la mort. Alors bien souvent, les faux-sauniers préféraient quitter le royaume de France pour embarquer sur les bateaux qui partaient vers le Nouveau Monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous trouverons beaucoup de similitudes entre l'accent du Québec et l'accent du patois maraîchin et breton. Tout cela s'est fait de notre vieux français, notre vieux François. Nous allons maintenant continuer notre chemin pour retrouver le canal qui nous dessert en eau salée. Ce sera l'occasion de découvrir la géologie de notre saline. Je vous laisse donc filer vers notre second point de rendez-vous.